Mes chers frères et sœurs, j'aurais aimé contempler cette élévation du Christ au ciel, cette glorification auprès du Père, cette consécration, cette glorification qui a dû être un immense spectacle, comme l'indique le psaume. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Je pense que tout l'orchestre des anges avait dû être convoqué, que depuis longtemps ils ont répété cette belle cérémonie, puisque nous savons que les anges jouent des instruments et chantent, comme on l'a vu lors de la naissance du Christ, avec les bergers. Ça doit être quelque chose de grandiose, un feu d'artifice extraordinaire. On peut faire travailler son imagination pour contempler cela. Il y a une vidéo sur Internet où on voit un chant fait par des protestants et on contemple le ciel, on voit toutes les foules qui glorifient Dieu et le Christ dans une gloire immense, toute la foule glorieuse qui glorifie Dieu. Et déjà, ça donne une certaine image de ce que peut être cette glorification et cette gloire du ciel. Et je pense aussi à cet enfant qui avait été renversé par une voiture, il avait à peu près l'âge de 10 ans. Il était tombé dans le coma avec une lésion cérébrale irréversible, en principe, donc dans un état comateux profond duquel il ne devait pas sortir. Une personne était venue prier pour lui à la prière des malades. Une parole a dit, voilà, on est venu prier pour un enfant qui est dans le coma, il va en sortir. Et dans son coma, il aura fait une belle expérience. Et de fait, il est sorti du coma le soir ou le lendemain, je ne sais plus, bon. Et peu à peu, il a raconté à ses enfants ce qui s'est passé durant ce temps où il était dans le coma. Il a raconté qu'au moment où la voiture l'a renversé, cette voiture roulait à 70 km/h à peu près, où il l'a renversé, il s'est décorporé, ce n'était pas son langage, mais on peut le traduire comme ça. Il s'est vu au-dessus, puis à un moment donné, il a été aspiré vers le ciel. Et là, il a vu Jésus. Jésus dans sa gloire. Et quand il a vu Jésus, il a couru vers lui, il a voulu l'embrasser. Et Jésus lui a dit « Non, on ne s'embrasse pas parce que tu vas retourner sur terre. » Et ce qui est assez étonnant, c'est que Jésus avait sur son corps les marques de la blessure de cet enfant. C'est une marque à la tête, et une blessure à la tête, et une blessure à la cuisse. Cet enfant ne connaissait pas ses blessures et il a raconté ses blessures qui étaient sur Jésus, parce que Jésus porte nos blessures. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a raconté aussi qu'il a vu le nom de ses parents inscrit quelque part. Il y avait un endroit où le nom de ses parents était inscrit au ciel. Ne connaissant pas cette parole de la Bible, évidemment, à 10 ans, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Il a vu l'enfer. Dans l'enfer, il a vu quelques djihadistes, a-t-il raconté. Et à la fin, son père lui a demandé « Est-ce que tu es heureux de revenir sur terre ? Est-ce que tu es heureux de n'être pas mort ?» Et il leur a répondu « Je suis heureux de vous revoir, mais c'était beaucoup mieux là-haut. » Et oui, c'est beaucoup mieux là-haut. Donc le Seigneur est monté au ciel et nous y attend parce que c'est beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux là-haut. Je peux vous le certifier. Alors, le Seigneur est donc monté au ciel dans sa gloire et bien parce qu'il estime, parce que le Père lui a dit que sa mission était terminée, cette mission sur terre était terminée. Il a encore passé 40 jours avec ses apôtres et ses disciples pour préparer l'Église. Et pourtant, quand il monte au ciel, on peut voir que l'Église n'est pas prête, en fait. Il suffit de voir dans les actes des apôtres. Les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» C'est-à-dire que les apôtres n'ont rien pigé. C'est comme un prof qui donne un cours toute l'année et à la fin on lui pose la question qui montre que personne n'a rien compris à son cours. Bon, c'est à peu près ça. Donc, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Les apôtres pensent que Jésus est venu rétablir un royaume terrestre pour Israël. Ils n'ont pas compris que le royaume que le Christ est venu établir est un royaume spirituel, pas rétablir le royaume terrestre d'Israël, mais un royaume spirituel. Un royaume dont l'accomplissement se trouve au ciel, dans l'eschatologie. Et si vous regardez aussi la fin de l'évangile de Marc, vous verrez que le Seigneur a beau s'être montré 40 jours à ses apôtres, ses disciples, au bout de 40 jours, il y en a encore qui sont pleins, remplis de doutes. par rapport à la résurrection du Christ, tellement ça leur paraît incroyable. Bref, on a l'impression qu'il monte au ciel alors que sa mission, finalement, semble ne pas être terminée. Mais quand on regarde les actes des apôtres et les évangiles, on s'aperçoit que cette montée de Jésus au ciel est étroitement liée à l'envoi en mission. À l'envoi en mission, quand on le voit très bien dans saint Matthieu, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute création. Toute la création, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. » Et le Seigneur énonce un certain nombre de miracles qui se réaliseront pour manifester cette force de l'évangélisation et cette vérité de l'évangile. Ce qui signifie aussi que les apôtres vont devoir recevoir l'Esprit Saint pour pouvoir évangéliser avec cette parésia, c'est-à-dire cette audace, comme le dit les actes des apôtres, c'est un mot grec, parésia, c'est une audace. Cette audace qu'ils n'ont pas encore au moment où le Christ monte au ciel. Ils vont devoir rester au Cénacle avec la Vierge Marie pour attendre cette force que le Seigneur leur a promis, comme il est dit dans les actes des apôtres, qui va leur permettre d'évangéliser. Vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, cette solennité de l'Ascension nous rappelle que nous sommes appelés à évangéliser, selon bien des manières très différentes pour les uns des autres, et aussi que ceux qui évangéliseront verront dans leur évangélisation des signes. Il suffit de voir à la prière des malades, vous avez peut-être suivi ça par Internet. Aujourd'hui, on a tellement de témoignages de guérison que je ne peux même pas tous les dire à chaque fois. Tellement il y a de gens qui sont guéris à travers cette prière qui a commencé il y a pas mal d'années, très modestement. Voilà, le Seigneur accompagne, même si vous ne faites pas des miracles par milliers, le Seigneur accompagne notre évangélisation. Si vous évangélisez, vous verrez des signes qui accompagneront cette évangélisation, qui certes aussi se passe aussi dans la douleur, parce que l'évangélisation, ce n'est pas une vaste euphorie, c'est une évangélisation avec des persécutions, avec des résistances, avec des gens qui vous combattent, avec aussi des combats intérieurs. Et c'est pour ça que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous ne devons pas compter sur nous-mêmes pour évangéliser, mais compter sur la force de l'Esprit-Saint qui agit dans nos faiblesses, dans nos limites, même dans nos péchés, pour évangéliser. C'est pourquoi je vous invite tous, aujourd'hui, à commencer cette grande neuvaine à l'Esprit-Saint, demander cette grâce immense à l'Esprit-Saint jusqu'à la Pentecôte, qu'il nous donne cette force de l'évangélisation selon la modalité que Dieu voudra qu'est cette évangélisation pour chacun d'entre nous, parce que ce sera selon des modalités très différentes. Nous ne sommes pas des clones. L'un va évangéliser très discrètement sur son lieu de travail, l'autre par des actes de puissance, l'autre par la musique, l'autre par je ne sais pas quelle qualité que l'Esprit-Saint lui donne. Mais nous sommes tous appelés à évangéliser. Comme disait saint Paul, « Malheur à moi si je n'évangélise pas. Au ciel, le Seigneur me demandera « Est-ce que tu as aimé et est-ce que tu as évangélisé ?» C'est la question qui nous posera chacun d'entre nous. Je vous le dis, c'est une certitude absolue. Est-ce que tu as cherché à évangéliser ? Je ne demande pas de réussir, je ne demande même pas de convertir personne, je demande simplement de désirer évangéliser et d'évangéliser selon la grâce que l'Esprit-Saint te donnera. Amen.